Parlons voyage maintenant. Au Chili, il y a une bande côtière à l'ouest des Andes, ainsi que les îles Juan Fernandez et l'île de Pâques dans le Pacifique. Le Pérou, lui, occupe la partie centrale de la face ouest de l'Amérique du Sud, entre l'équateur et le tropique du Capricorne. Pour y arriver au Chili ou au Pérou, il y a la route de Panaméricaine, cette même route que Maurice Efti a empruntée pour vous dire que les pays, c'est l'histoire, et que l'histoire, c'est une rencontre avec le temps. Une chanson qui vous fait penser au voyage, à l'imprévu et bien sûr à l'évasion, c'était Pat Metheny. Le soleil est au plus haut zénith. Maurice Efti.
Atacama. C'est un drôle de terme. C'est un drôle de désert. Enfin, drôle n'est pas le terme non plus. Quand on pense véritablement à ce qu'est un désert, sachez quand même que c'est au Chili qu'il faut le chercher. Le plus absolu des déserts. Un désert où il n'y a plus de vie du tout. C'est le seul endroit de notre planète, si ma mémoire est bonne. D'ailleurs, si ma mémoire est bonne aussi, c'est là que les astronautes de la NASA ont fait certaines recherches et sont allés se placer pour tomber véritablement dans un univers purement minéral, hors du monde, hors de tout, carrément célène. C'est-à-dire vouloir se retrouver sur la Lune avant d'y avoir mis les pieds. C'est un peu ce qu'on ressent quand on traverse cet incroyable désert, cet immense désert d'Atacama, ce long désert, parce que le Chili est d'abord long. C'est une terre prolongée, c'est une chose étrange qui fait que, d'abord, on imagine toujours le désert comme étant un plateau de sable. Ici, c'est exactement l'inverse, parce que on a affaire à un monde qui est complètement bouleversé, on a affaire à un véritable cataclysme. La terre, le sable, les pierres, tout cela, ça... On a l'impression que ça émerge de montagnes, qu'il y a des roches en forme absolument étonnante, il y a des aspects qui sont étranges. Tout cela est mêlé. Il y a un simple mamelon qui tout à coup répond à un pic absolument élancé. Puis il y a des couleurs qui paraissent uniques. Vous passez du mauve au violet en passant par le blanc, le gris, le jaune. À toute heure de la journée, selon le moment du soleil toujours implacable, vous avez tout à coup des reflets qui varient. Mais vous en avez pour des centaines de kilomètres. Vous devez vous faire toute la panaméricaine. Vous avez l'impression que ce désert ne finira jamais. C'est-à-dire que vous avez surtout une piste qui se perd d'abord à une sorte d'horizon qui vous paraît infini, puis ensuite tout à coup, après les sables, vous vous retrouvez dans des montagnes, dans des montées, des descentes qui n'en finissent plus. Une variété qui est assez époustouflante pour un désert. C'est-à-dire que d'abord vous êtes au bord de l'océan, vous êtes un peu rafraîchi par ce Pacifique. Je vous ferai remarquer que le Pacifique est d'ailleurs beaucoup plus froid que l'endroit où nous sommes, puisque au Chili, l'eau est extrêmement glacée, elle vient du sud, elle est agrémentée d'un courant qui vient du sud, et c'est la raison pour laquelle nous sommes dans un désert. C'est-à-dire que le froid, tiens, je pourrais vous l'expliquer, le froid de la mer, le froid du Pacifique, va permettre une évaporation qui, en fait, parce qu'il a 3, 4, 5, 10 degrés, va l'obliger à s'évaporer. Chauffée par le soleil, l'eau ne pourra jamais retomber sur la première partie. Petit à petit, cette eau va grimper, elle va monter jusqu'au sommet des Andes, et c'est seulement tout au sommet des Andes, à 5, 6, 7 000 mètres d'altitude, qu'elle arrivera à sa température de chute. Mais avant, il est impossible qu'elle retombe en pluie. Donc, Atacama est sans eau depuis des milliers et des milliers d'années. C'est vraiment l'endroit qui ne recevra jamais d'eau par cette logique d'un simple courant marin et des Andes qui sont là comme une barrière pour recevoir, pour agrémenter ce courant humide en courant qui deviendra les quelques rivières qui descendront soit du côté Pacifique, bien sûr, mais surtout du côté amazonien. Ça, c'est juste pour vous donner un peu la notion de la géographie locale. Mais ce qui est important aussi, c'est que quand vous êtes au bord de l'océan, vous êtes rafraîchi par cet air marin, mais à un bout d'un moment, vous devrez remonter, resuivre une piste qui va grimper d'un seul coup à 2500, 3000 mètres d'altitude. Vous avez compris, vous êtes sur une pente qui descend très rapidement des Andes, c'est-à-dire que vous vous jetez véritablement dans la mer. Et des virages, à cause de cela, il y en a des milliers, vous n'arrêtez pas de tourner. Des lignes droites, on en a aussi à perte de vue, c'est-à-dire que l'horizon dont je parlais, tantôt c'est une ligne absolue tout autour de vous, ou tantôt c'est carrément un rocher à 3 mètres de vous, au pied d'un bloc encore plus grand, tout cela semblant jaillir du sol. Mais ce qui vous touche d'abord, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'arbres, qu'il n'y ait pas un brin de végétation. Si vous prenez la panaméricaine, c'est vrai que vous allez peut-être trouver un peu plus loin vraiment dans une craquelure, parce que vous changez sur la carte. Le côté absolument désertique ne se trouve qu'au centre de l'Atacama. Bien sûr, c'est pas là qu'on va faire passer une route, mais dans une petite craquelure du sol, bon, vous allez voir une fleur timide qui va grimper vers le ciel, qui va demander une pluie qui ne viendra jamais. Mais c'est vrai aussi que la nuit, on peut ressentir une différence de température, qu'il y aura tout de même une mini rosée qui pourrait juste agrémenter, bon, à des kilomètres à la ronde, une seule petite fleur. Plus loin, on va voir une touffe d'herbe qui est complètement jaunie avec ses racines autour d'elle. Ce sont des détails, mais quand il y a déjà 200 kilomètres que vous n'avez pas vu un brin d'herbe, je vous assure que le premier, vous le remarquez. Et on cherche dans ce sol aride la plus petite parcelle d'humidité. Cet enfer a été abandonné par les hommes, mais bien sûr par les animaux. C'est un des seuls endroits, je vous le disais, où personne ne peut vivre véritablement. Alors cette route, elle traverse du nord au sud tout ce désert et elle se présente, on l'a senti aussi, par de nombreux aspects, parce que contrairement au Sahara, où le sable est véritablement l'ennemi de l'automobiliste, ici, je crois que c'est plutôt la poussière, la terre, la pierre et surtout le nitrate, cet étrange nitrate qui se met partout et qui est bien dérangeant. Si je parlais de nitrate, c'est parce que ce sel permet une conservation étrange, celle des hommes. C'est-à-dire que si vous mourrez dans le désert de l'Atacama, si on vous enterre dans ce désert de l'Atacama, il suffira de vous mettre en position de fœtus, comme un pré-colombien, comme tous ceux qui ont précédé les Espagnols, et vous allez vous retrouver comme simple momie pour des millénaires. Et c'est vrai que, comme tout le monde, il y a déjà quelques années, lorsque j'ai traversé cette région, bien sûr que j'ai voulu voir s'il y avait des momies dans le désert d'Atacama. Il y en a un peu partout. Et c'est très étrange de déterrer sa première momie, de se retrouver devant ce message de l'au-delà. Ben, c'est vrai que vous allez la réenterrer après, par politesse. En tout cas, c'est ce que je faisais. Tout le monde ne le fait pas, parce que de temps en temps, il y a quelques bijoux, il y a quelques objets intéressants. Mais c'est toujours étrange d'avoir cette communication avec quelqu'un qui est mort il y a 2 ou 3 000 ans et qui est simplement déposé comme cela, de façon extrêmement simpliste. Mais c'est encore plus étrange quand vous vous rendez compte qu'aujourd'hui on continue à fonctionner de la même manière, parce que les enterrements que j'ai vus des quelques personnes qui vivent dans ces villages perdus du désert d'Atacama, ils enterrent également leurs morts à 1 mètre de profondeur en mettant simplement quelques cailloux dessus pour éviter d'être mangés par les animaux qui pourraient creuser ces quelques centimètres de sable et de poussière, parce qu'on les enterre pas très profond, il n'y a pas besoin d'ailleurs, il n'y aura jamais d'eau et ces gens vont sécher carrément sur place. Et cette coutume qui est contemporaine me rappelle un peu tout ce que les précolombiens ont utilisé, parce que notre cheminement nous amène maintenant après le Chili au Pérou, et au Pérou ça n'est pas quelques tombes comme dans le désert d'Atacama, ce sont des millions et des millions et des millions d'hommes qui ont été enterrés, alors là momifiés avec emballage, avec bandelettes, avec tout leur service pour l'au-delà. C'est-à-dire que la notion de la mort pour un Péruvien est assez différente de celle qu'on a en Occident, en Égypte ou ailleurs. C'est une notion qui vous oblige à continuer à vivre d'une autre manière, mais identique au vécu que vous avez tous les jours. Donc la momie, c'est simplement la conservation de votre corps dans l'au-delà. Et il faudra de la nourriture, il faudra certaines choses, parce que ce corps va continuer à vivre et à fonctionner. Et vous allez voir que par les dernières découvertes qu'on a faites au Pérou, on a des révélations absolument folles sur la mentalité de ces gens-là. Parce que maintenant, vous êtes sortis du désert. Vous rentrez dans d'autres déserts. De petits déserts de 20, 30, 40, 50 kilomètres, souvent avec des dunes de 200 mètres de hauteur. Des dunes qui n'en finissent finissent plus et qui véritablement vous amènent tout à coup dans une vallée. Une petite vallée transversale. Tout à l'heure, nous sommes partis de la mer. L'eau vous a passé par-dessus. Elle est arrivée jusqu'au sommet des Andes, mais elle redescend. Elle redescend quelques jours, quelques mois par année. Or, elle descend de manière très subtile en sous-sol. Elle se perd elle-même en sous-sol. La nappe phréatique existe dans ces petites vallées. Il suffit d'être un Indien. Il suffit de savoir creuser un tunnel, de faire un peu d'irrigation. Et tout à coup, le verre est partout. Il est partout pour autant que votre eau soit exactement au bon niveau. Donc ces niveaux d'irrigation vont permettre dans chaque petite vallée du Pérou d'avoir une petite civilisation. Vous montez de 5 cm en dessus du niveau d'eau, vous aurez la maison du paysan. Vous montez à 10 cm en dessus de la maison du paysan, vous aurez le cimetière du paysan. Et vous allez vous retrouver devant des champs énormes, des nécropoles extraordinaires. Et quand je dis champs, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des champs de bombardement. Ils ont tous fouillé. Tous les paysans d'aujourd'hui ont été rechercher leurs ancêtres parce que leurs ancêtres étaient plus riches qu'eux-mêmes pour aller rechercher les trésors de ces ancêtres. Et c'est vrai que c'est très intriguant de se retrouver ainsi de vallée en vallée à travers ces nécropoles et de se balader même dans ces nécropoles où vous avez non seulement des ossements mais des tonnes de coton, de ouatine, d'emballage, de poutres. Tout cela est conservé pour l'éternité parce que rien ne va bouger, rien ne va changer. Il ne pleut pas beaucoup, un peu plus que dans le désert d'Atacama. Je crois qu'on a eu 3 ou 4 pluies importantes au XXe siècle dans ces régions. Mais nous avançons petit à petit. Et si je voulais vous faire découvrir ce côté un peu morbide peut-être du Pérou, c'est parce qu'il a quelque chose en même temps de vivifiant. C'est justement le message du vivant qui passe au mort et le message du mort qui passe au vivant. Vous l'avez compris, vivre dans un désert a quelque chose de tragique. Eau, sécheresse, soleil implacable. Depuis 6h le matin jusqu'à 6h du soir, le seul dialogue que vous aurez sera avec le soleil en haut et l'eau en bas. Thank you.
De la musique qui donne envie de voyager avec Inti Illimani et encore du rêve, encore de la poésie, de l'évasion, le zénith au zénith, Maurice Efti.
Lorsqu'on vit pour quelques heures au cœur d'une de ces vallées fertiles, on comprend ce miracle de la vie. On comprend que le Péruvien a tout compris. C'est-à-dire que il sait vivre au présent, il sait travailler au présent, il sait utiliser toutes les forces vives, c'est-à-dire ses taux. Pensez à la ligne que je viens de faire avec la Panaméricaine. Nous sommes partis du Chili, nous montons vers le Pérou, nous irons jusqu'au sommet du Pérou. En même temps, vous suivez une côte étrange qui est le Pacifique, qui est la mer la plus poissonneuse du monde. La vie absolue se trouve dans cette mer, une mer extrêmement froide. Et puis en même temps, vous avez de l'autre côté une autre ligne, une échine véritable, les Andes, que vous voyez de partout. Si vous observez ces Andes, vous voyez ces sommets qui montent à 6-7 000 mètres lorsque nous sommes au Chili, avec toujours systématiquement des neiges éternelles. Un contraste très violent, et vous savez que c'est cette neige qui viendra à vous petit à petit par ces petites vallées transversales. C'est-à-dire que vous allez recevoir vous-même la manne de ces sommets qui sont sacrés, qui sont divins. Et il suffira de reprendre cette matière, cette eau, de l'utiliser par ces canaux, par ces tunnels que l'homme a creusés sur des milliers et des milliers de kilomètres dans chacune de ces vallées. Là, vous comprenez l'effort, vous comprenez l'importance de ce qu'est une civilisation quand on ose aller si loin dans le travail et qu'en fait, on arrive à faire vivre 50 000 personnes avec des millions d'heures de travail, des siècles de travaux. Et c'est vrai que c'est la chose la plus touchante. Et on est tout à coup aspiré par cette ligne qui est totalement contradictoire. C'est-à-dire que vous avez maintenant une véritable croix qui se forme devant vous. Vous avez cette ligne du Pacifique, cette ligne des Andes, et vous, vous êtes tout à coup retenu par ce côté est-ouest, c'est-à-dire toutes ces transversales que vous traversez petit à petit. Vous avez envie de monter, vous en suivez une, et vous arrivez sur les hauts plateaux. Vous arrivez, par exemple, au lac Titicaca, et devant le lac Titicaca, vous sortez, vous arrivez devant le petit lac Umayo, et là, vous vous rendez compte que l'homme a vécu de la même manière. Vous êtes à 4000 mètres, le système agricole est complètement différent, le paysage est devenu dantesque, mais vous remarquez tout à coup que l'idée de l'atmosphère, de l'eau, du paysage, des dieux, est restée la même.
Manas mamai, tu manas teitai tu, puka i panti pariguana. Runa guaguanta muna i ni warham, puka i panti pariguana. Panti pariguana, runa huawanta munaini warham, kukai panti pariguana, kukai panti pariguana.
Ces plaines désertiques d'altitude sont peut-être même plus désertiques que celles que nous avons rencontrées tout à l'heure. Là, vous vous retrouvez devant la pampa. La pampa, ce sont des balais brosses posés les uns à côté des autres. Il n'y a rien, tout est dur, tout est sec, tout est âpre. Et il faudra effectivement une petite saison pour que votre alpaca, votre lama, votre guanaco puissent quand même ronger, manger quelque chose. C'est le seul, ce camélidé, qui a les dents assez longues et la gorge assez dure pour supporter de manger une herbe aussi difficile. Ses surfaces jaunes sont impossible, vous ne pouvez pas les faucher, il faut carrément les mâcher sur place. Et puis vous avez ce lac. Ce lac, par exemple, ce petit lac Umayo, qui est un cercle, un véritable cercle percé au centre par une table. C'est quelque chose de fou. C'est un endroit, c'est peut-être l'endroit le plus magique que j'ai jamais rencontré au Pérou. Un endroit où vous vous dites, tiens, cette table de pierre posée au milieu de cette eau, une eau qui a une couleur entre noir, bleu et violet, quelque chose de très dense, de très fourni comme cela, et autour, cette masse de jaune, ces collines, ces montagnes qui entourent cela comme un véritable anneau secondaire. Et au centre, ce plateau absolu, et depuis la bordure, un autre plateau. Et sur ce plateau-là, des espèces de champignons, des phallus énormes, des choses de pierre que l'homme a construit simplement pour enterrer ses morts. Je suis encore dans les momies, mais attendez l'orage. Et c'est là que j'ai tout compris. C'est un endroit absolument fabuleux. On a dû mettre un paratonnerre pour éviter de détruire ces constructions qui sont là depuis plus de 1000 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a certainement une masse minérale folle, exactement à l'endroit où les hommes ont enterré leurs morts. Il y a une autre masse masse minérale absolument folle au centre de l'île, au milieu du lac Umano. Chaque fois qu'un éclair tombe, il est suivi d'un autre éclair. Et cet éclair tombera toujours exactement au centre de l'île ou carrément à l'endroit que vous avez choisi pour vos morts. C'est symbolique, mais vous voyez qu'on retire une autre ligne vers le ciel, parce qu'après tout, notre contact depuis le départ n'est qu'un contact entre les astres. Bien sûr, le soleil est implacable, mais sans l'eau, sans ces nuages, sans ces éclairs, sans ces arcs-en-ciel, sans Vénus, sans l'ensemble de ce qui fait la cosmogonie des précolombiens, des Incas, eh bien, rien ne pourrait exister sur cette terre. La petite fleur de tout à l'heure, au fond du désert d'Atacama, c'est un Indien. C'est un Indien qui a soif et qui saura faire un canal pour aller chercher l'eau qu'il mérite. Installé tout à l'heure à Siustani, devant ces chuipas, des termes assez étranges, une chuipas, c'est une sorte de ruche dans laquelle on mettait ces momies bien alignées les unes sur les autres. Je vous ai dit que ça ressemblait à un phallus, comme une espèce de petit chapeau avec une rangée sur le haut, puis ensuite une tour véritable, et ceci monte jusqu'à 12 mètres de hauteur. Aujourd'hui, elles sont détruites par le temps, et les éclairs continueraient à les détruire s'ils agissaient encore. Mais en fait, lorsque la construction était parfaite, peut-être, à mon avis, supportait-elle mieux les orages. Et au centre, notre fabuleuse table a toujours été déserte. Elle est très verte, elle est très dense aussi, comme l'est le cercle et l'eau qui l'entoure. Et personne n'y vivait, aucun Indien de la région. Là, ce sont des Aymara. Ces Aymara refusent absolument d'aller visiter le centre de l'île du lac Umayo. Pourquoi ? Parce que c'est l'endroit le plus sacré de leur monde. Bien sûr qu'un endroit qui reçoit autant d'éclairs est un endroit fou. Seul, je ne sais plus s'il est allemand ou autrichien, un étranger s'est installé depuis quelques années au milieu de cette île parce que c'est un pâturage fantastique. Il vit sans rien faire, il prend son bateau de temps en temps et il aborde au bord de l'anneau et il retourne jusqu'à Puno. Mais j'ai envie de redescendre maintenant, j'ai envie de vous ramener dans un endroit qui m'a non seulement touché mais ébranlé parce que c'est un peu comme si tout à coup, on arrivait finalement à retrouver l'âme de ceux qui ont fomenté ces travaux, qui ont dirigé ces travaux d'irrigation, qui ont réussi à créer les plus grandes civilisations du Pérou. Or, ce sont des civilisations peut-être un peu muettes par rapport à d'autres civilisations du monde. Mais ce qui me paraît toujours étrange, c'est de voir à quel point ces gens obstinés ont saisi que le soleil était leur maître, que la lune était sa sœur, mais que le soleil avait des larmes, et que ces larmes, c'était de l'or, et que si la lune pleurait, elle pleurait de l'argent. Voilà une belle symbolique qui vous montre que par deux métaux précieux, vous allez pouvoir inventer la plus belle métallurgie, les plus beaux orfèvres et les plus belles orfèvreries du monde. Ça, c'est typique du Pérou parce que cette offrande du métal précieux, c'était simplement ce qui représentait le mieux ce soleil implacable qui est en dessus de vous. C'est vrai qu'on a l'impression de fondre au soleil. C'est une expression qui convient bien pour un objet précolombien, pour cet or si beau, si pur, natif souvent, que vous retrouvez dans une rivière. Les objets les plus sobres, je repense à ce qu'on peut voir dans certaines vitrines des musées de l'or. Moi, ce qui me touche, c'est une pépite. Les Incas, les précolombiens, les Mochicas, par exemple, ont souvent gardé des pépites telles qu'elles étaient. La plus belle que je connais fait 1,8 kg. Ils l'ont simplement posé un jour dans une tombe devant un grand seigneur. Et ils ont trouvé que cet objet, c'était vraiment une larme tombée du soleil par hasard dans cette rivière qui descendait certainement du côté amazonien et qui se perdait dans la verdure de l'Amazone, dans cette deuxième mer du pays. dans cet infini qui va jusqu'à l'Atlantique. C'est un beau symbole. Si je parle de l'or, c'est aussi pour vous parler de cette dernière découverte que l'on vient de faire il y a quelques mois. À Sapan, au nord du Pérou, là, notre panaméricaine a traversé Lima, nous avons traversé Trujillo, nous avons longé des dizaines et des dizaines de vallées, plus exactement traversé, coupé ces vallées andines. Et nous arrivons au royaume des Mochicas. Les Mochicas, ce sont des Indiens qui ont vécu là entre 100 et 800 de notre ère, grosso modo. Qui ont bâti la civilisation la plus solide du Pérou ancien. Ils ont eu le courage. Bah, il n'y a que de la terre, il n'y a que de la boue autour de vous. Il y a très peu de rochers dans ces déserts. Là, nous sommes dans des déserts de sable, dans des dunes. Eh bien, ils ont utilisé la glaise pour construire leurs pyramides. Des pyramides qui étaient aussi folles que les pyramides d'Égypte ou du Mexique et qui sont montées souvent à 50, 60, 80 mètres de hauteur. Aujourd'hui, elles ont pratiquement disparu parce que s'il ne pleut que 3 fois par siècle. Malgré tout, si vous n'utilisez que des briques d'argile crue, bah, finalement, ça finit par être détruit. Et vous mettez là-dedans quelques bulldozers anciens, c'est-à-dire quelques milliers de fouilleurs clandestins, et vous allez voir que ces briques ne résistent à rien. Non seulement elles ne résistent à rien, mais on a trouvé en 87, par hasard, à cause de fouilleurs clandestins, le plus grand des trésors du Pérou. Ce seigneur de Sapan, qui était enterré dans une tombe avec des bijoux les plus harmonieux, mais aussi les plus fous dont on ait pu rêver. Et il était entouré de 2 femmes de 20 ans, lui devait avoir 30 ou 35 ans, 2 femmes de 20 ans qui étaient placées de manière volontairement inversée à sa tête et à ses pieds, de chaque côté un guerrier, à l'envers une fois de plus, c'est-à-dire tête bêche, un des guerriers était accompagné d'un chien. Et par-dessus tout cela, on avait placé un autre guerrier, le gardien de la tombe, véritablement. J'oublie les bijoux, ils sont trop beaux, vous irez les voir un jour. Mais pensez à ce dernier gardien qu'on avait placé en dessus de la tombe, allongé en diagonale. Eh bien, on lui avait coupé les pieds après sa mort pour être sûr qu'il garde cette tombe jusqu'en 1987. C'est beau, non? L'idée de l'éternité, l'idée de la mobilité, mais surtout cette volonté de l'inertie. Arrêtez le soleil pour quelques instants, arrêtez-le pour l'éternité.
Après ça, il n'y a plus grand-chose à dire. C'était superbe, magnifique. Merci Maurice Efti.
Let faith be my shield, and let joy be my steed. Against the dragons of anger, the ogres of greed. And let me set free with the sword of my youth. From the castle of darkness, the power of
tomorrow. I struggled as a boy to work out wrong from right.
Changes, c'était Mike Lindup. Et la semaine prochaine, entre 14h et 14h40, sur Radio Suisse Romande, la première, Maurice Efti vous plongera dans le lac Titicaca, les Uros.